Vous écoutez toujours Radio France Internationale. Il est 20h à Paris, 18h temps universel. Et c'est l'heure du grand journal du soir avec vous, Christophe Pagé, bonsoir.
Bonsoir Paul, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une, la place Saint-Pierre de Rome fermée au public avant les funérailles du pape François.
Oui, plusieurs centaines de milliers de personnes lui ont rendu hommage depuis ce lundi et des présidents et des têtes couronnées sont en train d'arriver à Rome pour ses funérailles ce samedi. Nous appellerons notre envoyé spécial Muriel Paradon qui va nous expliquer comment tout cela va se passer. Alors que le programme alimentaire mondial annonce qu'il a épuisé tous ses stocks à Gaza, un groupe de 115 Palestiniens de Gaza a atterri en région parisienne ce matin. Ils ont été évacués par la France. Ce sera le dossier de ce 20h.
Et nous irons aussi à Nantes, c'est dans l'ouest de la France, pour entendre le procureur de la République, Antoine Leroy.
Oui, il a dressé cet après-midi devant la presse le portrait de l'adolescent qui a tué hier à coups de couteau une de ses camarades et en a blessé trois autres.
À la basilique Saint-Pierre de Rome, les hommages au pape François ont maintenant pris fin. Depuis lundi, ce sont environ 250 000 personnes qui sont passées devant son cercueil, Christophe.
Oui, et hier soir à Rome, alors que cette foule continuait à se presser dans des files d'attente interminables, une messe d'hommage était célébrée dans l'église Saint-Louis des Français. Une de nos envoyées spéciales, Véronique Guémard, y a rencontré la sœur Xavière, qui avait été nommée par le pape François sous-secrétaire du synode des évêques.
Je suis vraiment touchée par ce qu'est l'église et au-delà de l'église, vous voyez, hier quand j'ai prié, il y avait un imam qui est venu se recueillir devant le cercueil du pape François, qui a dit ses prières, il y a plein de non-croyants qui viennent, donc en fait c'est ce message d'unité et en fait c'est ce que le pape François n'a cessé de porter du début à la fin. C'est ça le cœur de la mission de l'église, c'est d'être sur cette terre le témoin d'un chemin d'unité possible.
Un chemin d'unité possible, c'est tout ce que l'on souhaite aux 50 chefs d'État et aux 10 monarques qui ont confirmé leur présence aux funérailles du pape François. Ce sera demain samedi. La plupart devaient arriver ce vendredi. Les alentours de Saint-Pierre de Rome ont donc été placés sous haute protection. Système anti-drone, tireurs d'élite sur les toits, avions de chasse prêts à décoller. Au-delà des dirigeants, 100 000 personnes sont attendues place Saint-Pierre. Muriel Paradon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Rome avec Jadèle Coury. Alors dites-nous quel sera le déroulé de ces funérailles.
Eh bien, les funérailles débuteront à 10h du matin, mais la place Saint-Pierre sera ouverte dès 5h30 pour permettre au public d'y accéder. Cela prendra du temps, vous l'avez dit, 100 000 personnes sont attendues et il y a des mesures de sécurité. Les forces de l'ordre sont déjà très visibles ce soir. Pour la cérémonie en elle-même, elle aura lieu sur le parvis, devant la basilique. Le cercueil du pape, qui doit être scellé ce soir, sera alors sorti de l'église. Une messe sera donnée en présence des cardinaux. Des chaises ont également été installées pour accueillir les personnalités, les souverains devant, puis les chefs d'État. Il y aura notamment Donald Trump, Volodymyr Zelensky ou encore Emmanuel Macron. La cérémonie doit durer entre 1h30 et 2h. Ensuite, le cercueil sera transporté en convoi à travers les rues de Rome. Il passera le Tibre, traversera le Forum romain près du Colisée pour arriver à la basilique Sainte-Marie-Majeure. C'est là que le pape a souhaité être inhumé dans l'intimité. Tout au long du trajet, le public pourra suivre le cortège derrière des barrières métalliques. Des écrans géants ont également été installés un peu partout dans Rome pour permettre à ceux qui ne peuvent accéder à la place Saint-Pierre d'assister à ses funérailles.
Merci Muriel Paradon avec les moyens techniques de Jadèle Coury.
À Gaza, 12 personnes, dont une femme enceinte. Et ses 3 enfants ont été tués ce vendredi dans des frappes israéliennes d'après les secouristes.
Et 11 corps supplémentaires ont été retrouvés dans une maison qui avait été touchée hier par un bombardement. Un bombardement qui aura donc fait au final 23 morts. De son côté, le programme alimentaire mondial annonce qu'il a épuisé tous ses stocks à Gaza où Israël, vous le savez, bloque l'entrée de toute aide humanitaire. Et c'est dans ce contexte qu'un groupe de 115 Palestiniens de Gaza évacués par la France a atterri ce matin en région parisienne. Des évacuations qui correspondent à des demandes datant de la fin de l'année 2023, il y a plus d'un an et demi. Ces évacuations, c'est le dossier de ce 20h. Alice Roussard, bonsoir.
Bonsoir.
Alice Roussard du service international de RFI, vous étiez avec eux ce matin à l'aéroport d'Orly.
Ils sont, grâce à Dieu, ils sont sains et saufs, ils sont en bonne santé et ils sont avec moi en France. C'est un miracle.
Celui que vous entendez justement, c'est Mohamed, un guitariste gazaoui arrivé en France fin janvier dans le cadre du programme Pause, qui n'arrive toujours pas à y croire. Alors ce matin, il y avait des applaudissements timides, des scènes d'embrassades, des enfants qui retrouvaient leurs parents. Lui retrouvait sa femme, Houda, ses 3 enfants, Leïla, 15 ans, Mariam, 14 ans, Ahmad, 11 ans. Ils ont réapparu et lui les a reconnus et les larmes ont inondé son visage après 617 jours de séparation.
Le rendez-vous leur avait été donné, Alice, à 6h, mercredi matin.
Oui, à Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza. La petite famille a d'abord rejoint l'endroit en charrette, sans rien, juste les habits qu'ils portent, un petit sac avec un portable et un chargeur maximum. Houda, la femme de Mohamed, 44 ans, a les yeux encore embués et un mouchoir à la main. Pour l'occasion, elle porte une écharpe de tatriz, la broderie traditionnelle palestinienne. Mais là, sur le coup, elle ne sait plus vraiment quoi penser.
Mes sentiments sont tout mélangés. Je suis contente, je suis énervée, je suis stressée, j'ai peur. Et si je pense au futur, j'espère juste qu'il sera meilleur que ce qu'on a vécu dernièrement.
Karouda et ses trois enfants, comme la plupart des Gazaouis, ont été déplacés à plusieurs reprises.
Oui, 11 fois au total, du nord au sud de la bande de Gaza. Récemment, ils ne dormaient plus à cause des cauchemars ou des bombardements incessants. Leur quartier Tel al-Hawa a été réduit à l'état de gravat dès la fin 2023.
Là-bas, tout est détruit et toute vie est devenue impossible. Les enfants ne font plus rien, ils ne vont plus à l'école. Mon plus jeune fils, il passait sa journée à ramasser du bois pour qu'on puisse faire du feu, parce qu'on n'avait plus rien pour se chauffer ni pour cuisiner. Quitter notre terre, c'était une décision difficile, mais nous n'avions plus vraiment le choix.
Aujourd'hui, Houda dit ressentir un peu de culpabilité. Elle pense avant tout à ses sœurs, à ses proches, à tous les autres Gazaouis.
Imaginez que vous vivez tout ça, alors qu'eux sont toujours en enfer. Donc c'est un sentiment délicat et ça nous fait peur, parce que je n'arrive toujours pas à envisager que je suis sortie, mais que je les ai laissés derrière moi.
Elle nous confie qu'elle était surprise la veille dans le ciel. Le bruit des avions, des frappes, des drones avait disparu, c'est ça qui l'a marquée. Ce soir, elle va dormir dans une maison en banlieue d'Angers. Et la première chose qu'elle va faire, passer du temps avec son mari et dormir.
Merci Alice Froussard pour ce dossier, dossier du 20h de RFI. On se dirige maintenant vers la Syrie, où 11 civils de la minorité alaouite, dont des étudiants, ont été tués ces dernières 24 heures lors de perquisitions par les forces de sécurité menées dans la ville de Homs, dans le centre du pays. Une information donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui précise que 3 personnes sont mortes sous la torture après leur arrestation. Début mars, on s'en souvient, la communauté alaouite avait déjà été la cible de massacres qui ont fait, selon l'OSDH, plus de 1700 morts.
On approche des 100 jours depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump.
Le président américain qui a opéré un spectaculaire rapprochement de son pays avec la Russie, de Vladimir Poutine, et ce, en pleine guerre Russie-Ukraine. Ce vendredi, et pour la 4e fois, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff a rencontré le président Vladimir Poutine, mais la journée qui s'est achevé sans avancée officielle tangible. Décryptage à Moscou avec Anissa El-Jabri.
Les deux premières rencontres entre l'envoyé spécial de Donald Trump et le chef de l'État russe n'avaient donné lieu à aucune communication. La troisième à Saint-Pétersbourg avait duré 4h30 et donné lieu cette fois à quelques images. Seul signe visible du réchauffement continu entre Moscou et Washington. Cette fois, le rendez-vous a eu lieu au Kremlin et de brèves images en début d'après-midi ont montré Steve Witkoff et Vladimir Poutine assis à une table de négociation. Au même moment, le magazine Time rendait publique une interview de Donald Trump où il multipliait encore les déclarations en ligne avec les positions du Kremlin, insistant notamment sur le fait qu'à ses yeux, je cite, « la Russie gardera la Crimée », allant même jusqu'à dire « et Zelensky comprend ça ». Aucune avancée visible concrète à l'issue des 3 heures d'échange à Moscou. Pourtant, le sherpa diplomatique du Kremlin a mentionné une seule nouveauté. Vladimir Poutine et Steve Witkoff ont évoqué de possibles négociations directes entre Moscou et Kiev, sans jamais nommer avec qui, question de taille, tant le pouvoir russe n'a jamais cessé de contester la légitimité de Volodymyr Zelensky. Agnès El-Jabri, Moscou, RFI.
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, assure de son côté dans une interview à la chaîne américaine CBS que la Russie est prête à un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il précise quand même que certains éléments spécifiques doivent être peaufinés. Aux États-Unis, le FBI arrête un juge pour entrave à l'arrestation d'un migrant. C'est le directeur du FBI lui-même, Kash Patel, qui l'a révélé sur X avant que sa publication ne soit supprimée. Kash Patel y affirmait que la juge Anna Duggan avait été arrêtée à Milwaukee dans le Wisconsin, soupçonnée d'avoir intentionnellement détourné des agents de la police de l'immigration de l'individu devant être arrêté dans son tribunal. Individu qui, au final, a bien été arrêté. Aux États-Unis, où Donald Trump veut ouvrir l'extraction de minerais dans les grands fonds océaniques, l'objectif c'est de récupérer des sortes de galets posés sur les fonds marins, des galets riches en minéraux comme des terres rares. Et l'objectif c'est de doubler la Chine dans ce domaine. De fait, Pékin dénonce déjà une initiative américaine qui enfreint le droit international, car de fait, Donald Trump veut aussi extraire ses minerais dans les eaux internationales. On se dirige vers l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui va examiner une plainte de Pékin, plainte contre la décision de l'Union européenne d'imposer des droits de douane sur les voitures électriques en provenance de Chine. Les précisions d'Agnieszka Kumor.
Les mesures imposées par Bruxelles sont incompatibles avec les règles du commerce international, a plaidé auprès de l'OMC le représentant de la Chine. Toutefois, Pékin reste ouvert au dialogue. Selon ce responsable, la recherche d'une solution aux différends serait toujours envisageable. L'UE, quant à elle, a fermement défendu sa position, jugeant ces mesures pleinement justifiées. Les taxes européennes, qui peuvent aller jusqu'à 35%, ont été annoncés en octobre dernier après une enquête de l'UE estimant que les subventions publiques chinoises menaçaient les constructeurs automobiles européens. La Chine a porté l'affaire devant l'OMC à la fin de l'année dernière, soulignant qu'elle n'était pas d'accord avec ses droits de douane. Bruxelles avait bloqué la première demande de la Chine de constituer un groupe d'experts, mais la deuxième demande chinoise a finalement été acceptée. Cette affaire survient alors que la Chine cherche en l'UE un allié dans sa guerre commerciale qui l'oppose à Washington.
À Nantes, dans l'ouest de la France, le procureur de la République a dressé aujourd'hui devant la presse le portrait de l'adolescent qui a tué hier à coups de couteau une de ses camarades et en a blessé trois autres. C'était à la mi-journée devant l'établissement catholique Notre-Dame. Écoutez le procureur Antoine Leroy.
C'est un jeune décrit par tout le monde comme étant extrêmement solitaire. Peu d'amis, voire pas du tout. Peu de dialogue avec grand monde, personnalité qui a inquiété sa mère, puisque c'est un jeune qui vit avec sa mère, puisque les parents sont séparés, à telle enseigne que sa mère a estimé opportun de faire en sorte qu'il rencontre des personnels éducatifs de la maison des adolescents de Nantes. Depuis janvier, ce jeune avait donc à 6 reprises rencontré des personnes susceptibles de l'aider. La deuxième chose, c'est que dans cette personnalité, il résulte assez clairement une certaine fascination pour Hitler. Cette fascination a été repérée par le personnel enseignant de l'école dans laquelle il était, de sorte qu'il a été convoqué avec sa mère la veille des vacances de Pâques. Troisième trait de personnalité, il s'agit d'un jeune à l'évidence suicidaire, à telle enseigne que ce jeune va sans doute rejoindre une unité susceptible de traiter cette tendance suicidaire.
Le procureur Antoine Leroy. Contrairement à ce qu'il soutient, François Bayrou a échangé en 1998 avec un juge chargé d'enquêter sur les violences commises à Notre-Dame de Bétarame. C'est une des filles du Premier ministre Hélène Perlan qui l'affirme dans une émission du site d'information Mediapart. Hélène Perlan qui ajoute que son père n'a jamais voulu couvrir les abus commis dans l'établissement scolaire privé.
C'est une première en France. La cour d'appel de Rouen déclare un capitaine de navire et son armateur coupable de rejet en mer de substances polluantes, et ce sur la base d'images satellites.
Oui, après une relaxe en première instance, c'était en 2022. La cour d'appel de Rouen a finalement condamné le commandant du MT Guardians et la société Valsa Holding à 80 000 euros d'amende. Une condamnation qui doit permettre de responsabiliser et de dissuader les navires qui ne respectent pas les réglementations en vigueur. Igor Strauss.
Le 13 janvier 2021, l'Agence européenne de sécurité maritime détecte par satellite une pollution par huile végétale à moins de 18 km des côtes françaises. Grâce au système de suivi d'itinéraire, de navigation et des navires, ce dégazage illégal est rattaché au Guardians, seul navire sur zone au moment des faits. Christina Barrault, juriste à la Fondation Surfrider.
C'est la première fois où un procureur a décidé d'engager des poursuites sur la base de la preuve satellite de ce rapport envoyé par l'Agence européenne de sécurité maritime. Avant, ça n'était pas encore arrivé.
Auparavant, seuls les flagrants délits pouvaient aboutir à des poursuites. Il fallait donc un bateau ou un avion pour faire des constatations directes. Pour Christina Barrault, l'utilisation des images satellites ouvre donc un nouveau chapitre dans la lutte contre la pollution marine.
Ça va permettre d'avoir plus de poursuites pour des navires pollueurs et plus de condamnations et donc un effet plus dissuasif. Et ça, ça va vraiment faire avancer le droit de l'environnement et le droit de la lutte contre les pollutions du milieu marin.
La Fondation Surfrider et l'ONG France Nature Environnement, partie civile dans ce procès, espère que cette condamnation fera désormais jurisprudence en France, en Angleterre et en Espagne. La détection par satellite a déjà permis de faire condamner des armateurs pour des rejets en mer de substances polluantes.
290 milliards de livres, c'est-à-dire 340 milliards d'euros, c'est la somme astronomique que le Royaume-Uni va devoir débourser sur 25 ans, mais quand même, pour financer les infrastructures de l'eau dans le pays. Des infrastructures obsolètes qui provoquent des épisodes de pollution à répétition. L'annonce a été faite ce vendredi par les contrôleurs des comptes britanniques. Les compagnies des eaux britanniques ont été privatisées en 1989. Leur sous-investissement est chronique et leur système date toujours en grande partie de l'époque victorienne. Paul Loncin-Spinelli, je vous rends la parole pour la suite de RFI Soir.
Merci Christophe. Christophe Paget pour le Grand Journal du Soir. Journal à retrouver quand vous le voulez sur notre site RFI.fr ou bien notre application Pure Radio. Tout de suite, c'est le Journal des Sports. RFI, il est 20h15 à Paris, 18h15, temps universel. Le Journal des Sports, c'est avec Babacar Diarra. Bonsoir Babacar.
Bonsoir Paul.
Du football en Ligue 1, le Paris Saint-Germain va s'étalonner une dernière fois avant sa demi-finale de Ligue des Champions.
Les champions de France accueillent l'OGC Nice en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. L'enjeu sportif sera plus côté azuréen car le club du sud-est français est toujours en course pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Pour Paris, c'est surtout l'invincibilité en championnat de France qui sera remise sur la table. Après le nul de mardi soir à Nantes, le PSG n'est plus qu'à 4 matchs d'une saison sans la moindre défaite. Un record d'invincibilité qui n'est pas prioritaire si l'on compare avec une finale européenne. C'est en tout cas l'avis de Luis Enrique, l'entraîneur parisien.
Pour être honnête, si quelqu'un me garantissait une place en finale de Ligue des Champions contre une défaite face à Nice, j'accepte tout de suite la défaite. Parce que les records, nous ne les avons jamais recherchés, ce n'est pas notre objectif. Nous, on veut gagner des titres et des trophées, c'est ce qui fait entrer dans l'histoire. Il est évident que ces records donnent un indicateur du niveau de l'équipe, mais le plus important, ce sont les trophées. Si on m'assure qu'on ira en finale de la Ligue des Champions si on perd contre Nice, je signe tout de suite, sans aucun doute.
Coup d'envoi de PSG Nice dans un peu moins d'une demi-heure au Parc des Princes.
En Afrique, il y aura un nouveau vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF.
Al Ahly du Caire s'est fait surprendre par les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns dans un stade international du Caire pourtant acquis à sa cause. Après le nul 0-0 de l'aller à Pretoria, les doubles vainqueurs en titre de la C1 avaient pris l'avantage grâce à Mohamed Taher dès la 24e. Mais un but contre son camp de Yasser Ibrahim à la 89e a offert la qualification au Mamelodi Sundowns au jeu des buts à l'extérieur. Le club phare du championnat sud-africain retourne en finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis son succès en 2016. La finale pourrait se disputer face à un autre club de la nation arc-en-ciel si les Orlando Pirates éliminent Pyramids, un autre club carotte.
Et puis cette sale journée pour les tennismen français au Masters 1000 de Madrid.
Exténué, le meilleur tricolore actuel, Arthur Fils, a subi un coup d'arrêt dès son entrée en lice au deuxième tour face à l'Argentin Francisco Comesana, 70e joueur mondial. Fils menait pourtant 5-1 dans la première manche avant de s'incliner au final 7-6, 6-4. Gaël Monfils n'a lui-même pas vu la terre battue cet après-midi. Malade, il ne s'est pas présenté pour défier le russe Andrei Rublev. Le seul français finalement à être passé entre les mailles du filet, c'est Benjamin Bonzi. Qualifié en 16e de finale, il a dominé en deux manches 6-4, 7-5 le polonais Hubert Hurkacz. À noter chez les dames qu'il y a eu une sortie de route précoce pour Ons Jabeur. La tunisienne est tombée en trois manches à Madrid contre la japonaise Moyuka Uchijima.
Et on referme ce journal des sports avec du basket. Babacar et Monaco qui cherchent à se rapprocher des demi-finales de l'Euroleague.
La Roca Team dispute à la maison son deuxième match de quart de finale face au FC Barcelone. À la pause, Monaco menait 9 points, 49-40. Un match plus disputé, voire plus tendu que la première manche remportée par les Monégasques mercredi avec 17 points d'avance sur les Catalans. Rappelons que l'autre club du championnat de France, le Paris Basketball, est mené deux manches à rien dans sa série face aux Turcs de Fenerbahçe avant la troisième rencontre disputée mardi soir à domicile à l'Adidas.
Merci Babacar Diarra, c'était le Journal des Sports. La référence française dans la presse sportive, c'est l'équipe bien sûr et son magazine qui sort en France chaque samedi pour nous parler des sujets qui seront au sommaire. Jean-Michel Brochen de la rédaction en chef de l'équipe magazine. À la une cette semaine, Jean-Michel, ce long récit de l'après-carrière mouvementée de Bradley Wiggins, cycliste iconique au Royaume-Uni, vainqueur notamment du Tour de France 2012.
Oui, c'est une figure du sport britannique, une figure du cyclisme qui a été 8 fois médaillé olympique, 4 fois champion olympique, vainqueur du Tour en 2012, et dont la vie a été faite à la fois de haut et de bas, et qui a surtout plongé après ses triomphes. Il est tombé dans l'alcool, dans la drogue, il a divorcé. Et tout ça, c'est le résultat d'une histoire personnelle et familiale très dure, avec l'abandon de son père, puis la mort de son père qui lui-même était devenu une sorte de junkie, entre plusieurs pays. Il est né à Gand en Belgique, son père était australien, il a fait sa carrière en Grande-Bretagne. Et donc une vie très compliquée. Alors bon, il se trouve qu'on a pu le rencontrer, hein. C'est un peu la particularité aussi de ce sujet, c'est qu'on a pu le rencontrer et il s'est livré un peu sur justement son espèce de destin cabossé.
On lit aussi dans cet article que Bradley Wiggins va suivre une psychanalyse un peu particulière aux côtés de Lance Armstrong à la fin du mois d'avril.
En fait, voilà, donc Bradley Wiggins aujourd'hui se reconstruit, il vient d'avoir un troisième enfant, il est sorti de ses addictions, mais bon, pour terminer un peu sa guérison, il va suivre une psychanalyse aux États-Unis, et effectivement, c'est, de manière un peu étonnante, Lance Armstrong, multiple vainqueur du Tour de France, puis à qui on a enlevé ses victoires suite à ses affaires de dopage, qui va payer la psychanalyse de Bradley Wiggins. Donc les deux hommes se sont un peu liés d'amitié, se sont rencontrés. Et voilà, ça fait partie un peu aussi de ce côté un peu complètement fou hein, de l'histoire de Wiggins. Il se termine finalement, il va mieux, mais finalement il va mieux en devenant inséparable avec Lance Armstrong. Donc bon, ça raconte une histoire à la fois originale et un papier en tout cas absolument passionnant dans le magazine L'Équipe.
L'une des autres histoires étonnantes qu'on retrouve dans cette édition de L'Équipe Magazine, eh bien, c'est le portrait de Sapir Berman. C'est la première femme trans à arbitrer un match de foot dans un championnat professionnel et c'est en Israël.
Oui, voilà, donc Sapir Berman, c'est une femme qui aujourd'hui a 30 ans. Et qui nous raconte un peu sa vie. Et sa vie, c'est d'abord la vie d'un petit garçon passionné de foot, avec des parents qui sont eux-mêmes passionnés de foot en Israël. Sa mère supporter du Real Madrid, son père supporter du Barça. Donc lui-même à l'époque, en tant que petit garçon, qui va jouer pour un club à Haïfa, et qui a un bon niveau, mais pas un niveau suffisant pour devenir professionnel, mais qui devient arbitre professionnel, voilà. Un très bon arbitre professionnel qui arbitre en première division professionnelle. Et arrive le Covid, et là, Sapir nous raconte que le Covid lui a fait prendre conscience un peu qu'elle ne pouvait plus vivre sa vie telle qu'elle la vivait, puisqu'elle se sentait petite fille depuis toujours. Et elle décide donc de suivre un traitement pour devenir une femme. Et donc, elle nous raconte comment elle l'annonce à ses parents, la réaction de sa famille, etc., etc. Donc ça, la réaction de sa famille, c'est pas forcément évident, même si ça finit bien. Mais comment elle va l'annoncer l'organisation qui gère les arbitres en Israël? Et là, à sa surprise un petit peu, elle est très bien accueillie, elle est très bien accompagnée, elle est très bien aidée. Et elle raconte comment le foot israélien, finalement, a totalement accepté son changement de genre et l'a aidé aussi à reconquérir un petit peu son statut d'arbitre, à retrouver son niveau, parce qu'au départ, avec la prise d'hormones, son niveau physique avait un peu baissé, elle avait été rétrogradée en deuxième division, mais elle a réussi à redevenir arbitre de première division et même à avoir le statut d'international cette année, en début 2025, et elle a arbitré un match de Coupe du Monde des U17 en Irlande, donc c'est la première fois qu'elle participait à un match international. Donc une histoire humaine assez forte également.
Est-ce qu'elle pense désormais qu'elle a changé sa façon d'arbitrer?
En tout cas, c'est une question qui l'intéresse beaucoup. Elle trouve que c'est une excellente question. Elle dit qu'effectivement, en tant qu'arbitre homme, on attendait d'elle une forme de virilisme, hein, de façon de s'interposer avec un peu de force et d'autorité entre les joueurs. Et qu'aujourd'hui, elle considère qu'elle est un petit peu plus dans le dialogue, dans la tolérance. Donc effectivement, elle accrédite un petit peu cette question, effectivement. Elle accrédite un petit peu le fait qu'elle ait pu changer un peu de style en changeant de genre.
Un troisième sujet qu'on va évoquer rapidement et qu'on retrouve dans L'Équipe Magazine, j'ai cette photo devant moi d'une bodybuildeuse indienne en tenue traditionnelle qui montre ses biceps très musclés, un portfolio donc que l'on retrouve cette semaine.
Oui, c'est la photographe indienne qui s'appelle Kirtana Kunat, j'espère que je prononce bien son nom, qui nous a proposé ce travail. Donc elle s'est effectivement rapprochée de femmes d'une province du sud de l'Inde qui pratiquent le bodybuilding. Donc avec des photos qui sont absolument superbes hein, de ces jeunes femmes très musclées qui posent en montrant leurs muscles, leurs biceps, leurs jambes très musclées, mais dans des habits traditionnels. Alors ça souligne un petit peu effectivement la difficulté dans ce pays où l'image des femmes est quand même au niveau culturel reste très traditionnelle. On a un peu l'image des beautés de Bollywood. Ça souligne un peu la difficulté pour elles de se faire un petit peu accepter à la fois par leur famille et aussi par le monde du sport dans cette pratique, voilà, une pratique qui est aujourd'hui le bodybuilding dans tous les pays occidentaux, d'ailleurs tout le monde en fait. Mais là, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. En tout cas, ça donne l'occasion d'avoir un reportage photo assez original et de rencontrer aussi des personnages qui sont, pour les unes étudiantes, pour les autres, exercent des professions libérales, voire même militaires, et qui sont pour certaines, en tout cas en photo dans le magazine L'Équipe.
Une série de photos donc à retrouver dans les kiosques demain, dans L'Équipe magazine, également sur le site internet de L'Équipe pour
également sur le site bien sûr
pour les abonnés. Merci beaucoup Jean-Michel Brochen d'être passé sur RFI.
RFI Soir, Paul Lancin-Spinelli.
Moins exposé peut-être que sa géopolitique électrique, Donald Trump n'a pour autant pas lâché sa campagne d'expulsion tous azimuts de migrants. Des centaines d'entre eux accusés d'être membres de gangs ont ainsi été envoyés dans une prison géante au Salvador. Et partout aux États-Unis, ICE, les services de contrôle de l'immigration, multiplient les arrestations de migrants illégaux. D'autres voient leur statut de résident révoqué brutalement à tel point qu'un climat de peur s'est installé au sein de la communauté latino, notamment au Texas. Reportage à Houston de Nathanaël Vitran.
Devant l'université de Houston Denton, nous rencontrons Gladys, 21 ans, dont 20 ans passés aux États-Unis, mais elle n'a pas encore la nationalité puisqu'elle est née au Guatemala.
J'ai peur pour tous les sans-papiers. Ils vivent dans la peur. Les gens n'osent plus sortir dans la rue. Quand on frappe à la porte, ils n'osent plus ouvrir de peur que ce soit la police de l'immigration. J'ai vu des gens emmener leur passeport ou la monnaie de leur pays d'origine sur eux au cas où ils se feraient expulser.
C'est que les gens planifient leur vie quotidienne comme s'ils pouvaient être expulsés à tout moment.
Oui, à tout moment. C'est vraiment terrifiant.
Dans ce climat, on est surpris de la décontraction apparente de Martine. Je ne parle pas espagnol, lui parle très bien anglais. Mais avec l'aide des mains, on arrive à se comprendre. 32 ans qu'il vend ses fruits et ses légumes sur ce marché de Houston. Mais il n'a ni la nationalité américaine, ni permis de résidence.
Non, pas de carte verte. Je suis mexicain. Il n'y a pas de problème. Ça fait 32 ans que je suis ici et je n'ai jamais eu de problème avec les services de l'immigration.
Sur le parking du marché, Maria remplit son coffre. Elle a 3 enfants, 3 garçons. Eux ont la nationalité américaine, pas elle. Alors le simple fait de sortir faire des courses est une source d'angoisse.
Yes, very afraid. Because you never know.
J'ai très peur, on ne sait jamais ce qui peut se passer en cas de contrôle routier, c'est très effrayant. Imaginez que je puisse être détenue alors que mes enfants sont à l'école, c'est... Le beau-père de mon frère a été arrêté la semaine dernière, avec d'autres membres de sa famille. Et on ne sait rien. On ne peut même pas leur rendre visite. Ils sont seuls et personne ne sait ce qui va leur arriver.
Les papiers de Gladys sont en règle, alors elle joue parfois les éclaireurs.
J'ai une amie mexicaine qui m'a appelée un jour pour me demander d'aller voir si ICE était près d'un magasin. Je suis allée voir et c'était vrai. Il y avait 4 voitures des services de l'immigration. Les gens couraient de peur d'être arrêtés et expulsés. J'ai prévenu mon amie et comme son appartement se trouve juste derrière ce magasin, elle n'a pas osé sortir de la journée. Elle n'est même pas allée travailler ce jour-là.
Nathanaël Vitran, Houston, RFI.
C'est toujours RFI que vous écoutez. Afrique Soir, dans 30 secondes.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
100 jours après le retour au pouvoir de Donald Trump, où va l'économie des États-Unis ? Entre risque d'inflation et menace de récession, les Américains et leurs entreprises sont-ils dans le doute ? Émission 100% USA avec nos envoyés spéciaux, témoignages et analyses.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.